On va se mettre à l'écoute de ce deuxième langage. Et puis, le prodige, alors, qui est à l'origine de l'identité de ce peuple élu, dont la durée, la continuité dans la durée, est toujours là pour nous interroger, c'est le passage de la mer Rouge. Évidemment, si on était archéologue ou géographe ou historien, bon, on irait chercher plutôt le passage de la mer Rouge du côté du canal de Suez, là. Mais alors, je reviens toujours à cette idée qu'on a développée dès le tombeau de Rachel le premier jour. C'est qu'il y a un langage de délivrance où viennent se rencontrer toutes les délivrances que le peuple de Dieu a expérimentées au cours de l'histoire. Et on est en route vers ce que la veillée pascale nous fait vivre. C'est tous les langages de la délivrance qui sont évoqués pour annoncer le grand passage, celui de la mort à la vie, par le Christ à Pâques. Vous voyez, il y a une pédagogie de Dieu qui se développe à travers l'histoire sainte, et au fur et à mesure qu'elle se développe, l'homme prend conscience des servitudes, des esclavages dont il est victime. Il prend conscience d'autre part de la liberté à laquelle il est appelé. Et puis, au fur et à mesure qu'il prend conscience de la servitude et de la liberté, il prend conscience du passage qu'on a à faire, pas qu'au plein sens du mot. Et Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration nous parleront de l'exode que Jésus doit accomplir à Jérusalem, à plénitude des temps. Alors il faut être docile à cette pédagogie de Dieu. Je pense que la théologie de libération poserait moins de problèmes si on reprenait pas cette pédagogie divine. Et si à partir de ce que les hommes expérimentent, ben, petit à petit, on était à la prise de conscience des véritables aliénations dont nous sommes victimes, qui sont le péché et la mort, de la véritable liberté à laquelle nous sommes appelés, qui n'est rien moins que le repos de Dieu, voir Dieu comme il nous voit présentement, et de ce passage que nous avons à faire et à refaire constamment, que nous avons déjà fait par le baptême, mais encore une fois, ce que nous avons fait reste à faire. Et tenez, déjà dans les psaumes, on trouve cette fusion. Tenez, il y a un psaume ici, le psaume 66. Regardez les gestes de Dieu redoutables en haut fait pour les fils d'Adam. Pas seulement le passage de la mer Rouge pour les fils d'Israël, mais tous les passages que Dieu a fait faire pour les fils d'Adam, pour l'universalité du monde. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Vous voyez, on évoque dans un même verset, voyez, le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain. Peuple du monde entier, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds des faux pas. Tu nous as épurés, Seigneur, comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu fis chevaucher à notre tête un mortel. Nous sommes passés par l'eau et par le feu, et tu nous as fait reprendre haleine. Banu ba'esh uva ma'im batotsi enu la revaya. On est passé par l'eau et par le feu, et on est sorti batotsi enu, c'est yotsiat mitraim, et toutes les sorties vers la liberté qu'on opère dans l'histoire. Et tout ça se synthétise dans un langage. Vous voyez, quand des événements dans la Bible se sont passés dans des contextes chronologiques et temporels et spatiaux différents, révèlent dans la méditation du peuple avoir une signification identique, ils se fusionnent dans un langage de délivrance, qui trouvera sa plénitude de signification, comme une symphonie dans son accord final, dans l'Évangile, pas dans la Pâque. Et ici, vous sentez que l'expérience que je vous fais faire est inspirée plus, pas de la liturgie et de la veillée pascale, que de toutes les études qu'on a pu faire au point de vue historico-critique. Loin de moi d'en nier l'importance, il faut voir que c'est du solide au point de vue historique, mais en même temps il faut se placer, comme nous invite la liturgie à le faire, au plan de la signification, parce que c'est à ce plan-là que la parole de Dieu devient percutante. Venez, écoute que je raconte ce qu'il a fait pour mon âme. Moi je trouve que ça devrait être défendu de faire des sermons. Déjà, dans l'Ancien Testament, il est dit de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire aux autres qu'un sermon, hein? Mais la prédication, c'est pas la même chose. Pas la prédication, c'est expérimenter pas la puissance de ce Dieu capable de mener par-delà la mort, l'expérimenter dans l'histoire que nous vivons, dans le prolongement de laquelle nous sommes, l'expérimenter dans notre vie, et dire je ne mourrai pas, je vivrai, je chanterai. Le hamout qui est rié va à sa perme, hein, je raconterai. Et alors le mot prédication, dans le vieux langage liturgique, vere dignum et tustum est predicare, c'est le langage des préfaces liturgiques. Vous voyez, ça n'a rien de commun que le sermon qui endort, c'est quelque chose au contraire qui est capable de ressusciter les morts. Normalement, prophétise les ossements et qu'ils vivent. Et la prédication, laudare benedicere predicare, eh bien, c'est pas faire des sermons et des conférences, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Chanter le Magnificat, chanter un chant toujours nouveau, et puis à ce moment-là, raconter aussi, raconter. Et ça, la catéchèse. Alors, on va prendre le premier des prodiges, là. Les Hébreux sortent d'Égypte. Écoutez, quand on lit le texte, simplement, on voit, on se résout beaucoup des problèmes qui apparaissent insolubles. Écoutez un peu ça. On peut prendre des crayons de couleurs différents et puis dire ça c'est du Yavis, ça c'est l'Éloïs, ça c'est du sacerdotal, ça c'est du deutéronomiste. Ben, c'est intéressant. On fait comme les archéologues qui procèdent à la stratigraphie. Voilà. On peut faire la stratigraphie des textes comme on fait la stratigraphie des tels. C'est passionnant. Hein. Mais on ne va en arrière que pour mieux rebondir vers l'avant. Écoutez un peu le texte simplement. Les Hébreux se trouvent face à la mer. Alors ils commencent déjà à râler. Pas un groupe qu'on entraîne dans les airs et qui râle pas, c'est pas normal. Les Égyptiens sauront que je suis Dieu quand je me serai glorifié. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, par ses prodiges, dans ce nouveau langage. Alors la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit s'écoula sans que l'un puisse s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer et Dieu refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Et moi j'ai entendu un père de famille raconter à ses gosses l'histoire. Il continuait, il disait les poissons regardaient de chaque côté, comme dans le musée océanographique des Lattes. Au fur et à mesure, pas que le temps s'écoule, bon, on devient attentif non pas tellement à l'événement lui-même qu'à la signification qu'il prend dans le plan providentiel. Et pour qu'on voit tout de suite comme à la loupe l'essentiel, on n'hésite pas à prendre le genre épique. C'est tout à fait normal. Alors au point du jour, la mer rentra dans son lit, les eaux refluèrent, il ne resta pas un seul. Les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, Dieu sauva Israël des mains des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens au bord de la mer, mort. Israël, alors écoutez ce verset. Ce soir, vous allez voir, je ne peux pas vous expliquer maintenant comment, on va retomber sur les noces de Cana. Retenez ça simplement et vous allez voir que c'est pas sans rapport. Israël vit la prouesse accomplie par Dieu contre les Égyptiens. Le peuple craignit Dieu. Il crut en Dieu et en Moïse, son serviteur. Comment est-ce que se termine le premier prodige là, dans l'évangile de Saint Jean, le premier des signes à Cana? Tel fut le premier des signes de Jésus, il accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez, ils ne croient pas en Dieu et en Jésus son serviteur, ils crurent en lui. Et c'est pas par hasard, pas ça je le tiens de professeurs qui ont fait des études là, très fouillées sur le sujet, c'est pas du tout par hasard. Et déjà dans la tradition juive, on va le voir, on peut pas revivre cette aventure de l'alliance, sinon dans une atmosphère nuptiale. Enfin, l'alliance c'est les noces. Et l'aventure qu'on va vivre dans le désert, on fait la rencontre de Dieu, c'est comme des fiançailles. Bon, on connaît Dieu. Et c'est pas de moi, tout ça, c'est Osée, c'est Jérémie, ce sont des textes qu'on va pas lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais qu'on va retrouver. Et vous allez voir ce soir qu'on va spontanément être amené à lire les noces de Cana, le premier des signes de l'évangile. Vous vous rappelez cette histoire que je vous ai déjà racontée de cet empereur d'Allemagne ou ce roi de Prusse, je ne me rappelle plus, un Frédéric, un Guillaume qui demande à son conseiller théologique, vous ne pourriez pas me donner une preuve de l'existence de Dieu? Un peu plus, enfin, ça ne me satisfait pas, moi, les cinq voies traditionnelles du Dede Uno. Alors il a dit l'existence du peuple juif. Et le peuple, vous avez ici un peuple qui dure, dont la continuité dans la durée épate tout le monde. Pas les grands empires, pas les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains. Et puis il est toujours là, il compte les points, et puis il fait l'expérience toujours d'un Dieu qui mène par-delà la mort. À quoi doit-il cette consistance dans la durée? Eh bien, au fait de la mémoire. Si vous avez un jour l'occasion d'assister au Seder de Pâques dans une famille juive, ne ratez pas cette occasion-là. Et vous ferez l'expérience de ce que c'est que la mémoire. On célèbre la sortie d'Égypte à travers les âges, non pas comme les Français célèbrent le 14 juillet, pas comme l'anniversaire, non, mais comme quelque chose que c'est maintenant, oui, c'est maintenant. Le texte qui est à la base de cette liturgie du Seder de Pâques, c'est là que j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était que les sacrements, hein, qui véhiculent la réalité de ce qu'ils signifient. En assistant au Seder de Pâques, évidemment j'ai fait la théologie de la transsubstantiation, tout ça, la présence réelle, hein, mais j'ai compris en assistant au Seder de Pâques des Juifs. Ce n'est pas avec nos pères, est-il dit dans le Deutéronome chapitre 5, que Dieu a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes, qui sommes ici, aujourd'hui, tous tant que nous sommes vivants. Et la contemporanéité, les sacrements véhiculent la réalité. Et alors la catéchèse, lorsque demain ton fils te demandera, qu'est-ce que c'est que ces instructions, ces lois, ces coutumes que le Seigneur, notre Dieu, vous a prescrites? Vous voyez, le garçon, la fille qui est née, il a une appartenance, il n'a pas choisi, il est né, il est là. Alors il dit, notre Dieu, mais vous a prescrit. Il n'est pas encore dans le coup. Alors le père de famille répond, nous étions esclaves. Vous sentez toutes les nuances du texte? Nous étions esclaves de Pharaon d'Égypte et Dieu nous a fait sortir d'Égypte par la main puissante et Dieu a accompli sous nos yeux ses signes et ses prodiges grands et terribles contre l'Égypte. Il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par sa main à nos pères et pour nous le donner. Vous sentez l'actualité. Et alors le secret, la permanence dans la durée de ce peuple, c'est le jeu de la mémoire. Et ici je vous lis quelques passages des psaumes. Écoute, ô mon peuple, ma loi. Tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche en parabole. J'évoque du passé les mystères. Oui, les événements médités amoureusement dans la mémoire deviennent des mystères. qui ont toujours quelque chose à dire à travers le temps et l'espace, comme les mystères du rosaire au fond. Nous l'avons entendu et connu, nos pères nous l'ont raconté. Ils n'ont pas fait de serment, ils ont raconté les merveilles de Dieu. Nous ne le tairons pas à leurs enfants, nous le racontons à la génération qui vient. Vous savez, la question de la catéchèse, elle ne sera pas résolue parce qu'on réussira à ajouter quelques heures, pas dans les lycées, pour l'instruction religieuse. Elle sera résolue vraiment lorsque des jeunes ménages prendront conscience que dès le plus jeune âge, il faut qu'ils racontent les merveilles de Dieu à leurs enfants quand ils sont encore à l'âge de l'émerveillement. Ensuite, ils se poseront des questions, bien sûr, mais ils auront tellement compris la signification, pas qu'ils auront pris un tel élan là-dedans, dans l'émerveillement, que ils comprendront, ils perdront pas trop de temps à se poser des problèmes, ils déchiffreront leur vie à la lumière de cette histoire. Il avait commandé à nos pères de le faire connaître à leurs enfants, que la génération qui vient le connaisse, les enfants qui viendront à naître. Dans la tradition juive, il y a une fécondité plus importante encore que la fécondité biologique, c'est la fécondité dans la transmission du patrimoine culturel. Et nous sommes héritiers de ça. Et dans la mesure où nous ne sommes pas héritiers de ça, nous sommes extrêmement vulnérables. Et notre identité, c'est un château de cartes. Qu'ils se lèvent et qu'ils racontent à leurs enfants, qu'ils mettent en Dieu leur espoir, qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu et ses commandements qui les observent. Et puis on montre aussi tout l'aspect négatif. Et tenez, il y en a qui ne dorment pas la nuit. Il y a un psaume juste avant, le 77. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à dormir? On va prendre un cachet. C'est dommage. On ne regarde pas les étoiles, ceux qui racontent la gloire de Dieu. Et puis on se rappelle les merveilles de Dieu. Et on se dit, alors toi qui as fait tant de merveilles dans le passé, pourquoi t'en fais plus maintenant? Et entre parenthèses, quand on prie, hein, ces prières, là, souvent les partages, comme on dit maintenant, c'est un peu filandreux. Enfin, on devrait rappeler les merveilles de Dieu, toi qui as fait ça dans le passé. Enfin, maintenant, pourquoi tu ne continues pas à en faire? Vers Dieu, ma voix, je crie. Vers Dieu, ma voix, il m'entend. Au jour d'angoisse, j'ai cherché le Seigneur, d'Arachti, même au Midrash. La nuit, j'ai tendu la main sans relâche. Mon âme a refusé d'être consolée. On refuse les consolations simplistes. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et le souffle me manque. Tu as retenu les paupières de mes yeux. Une manière originale de dire impossible de fermer l'œil. Tu as retenu les paupières de mes yeux. Je suis troublé, je ne puis parler. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pensé au jour d'autrefois, d'années séculaires, je me souviens. Je murmure dans la nuit en mon cœur. Je médite et mon esprit interroge. Je me souviens des hauts faits de Dieu. Je me souviens, oui, je me souviens d'autrefois, de tes merveilles. Je me murmure toute ton œuvre. Sur tes hauts faits, je médite. Ô Dieu sainte, sont tes voix. Alors voilà, on s'est mis à l'écoute de ce langage que Dieu parle par les prouesses là. Et puis les prouesses qu'il fait, qui restent dans la mémoire et qu'on entretient par le jeu de la mémoire et puis par la liturgie. Et pour nous chrétiens, en fond, c'est la même chose avec cette différence qu'il n'y a plus de comme si. Dans le Seder de Pâques, on dit chaque doit se considérer comme si. Quand saint Paul parle du baptême, il dit vous êtes mort. Il ne dit pas considérez-vous comme si vous étiez mort et comme si vous étiez ressuscité. Il dit vous êtes mort et vous êtes ressuscité avec le Christ. Quand Jésus institue l'Eucharistie, il ne dit pas considérez ceci comme si c'était mon corps. Il dit ceci est mon corps. Malheureux sont ceux qui tripotent comme ça dans le réalisme des sacrements de la Nouvelle Alliance qui véhicule à travers le temps et l'espace, pas la réalité même de ce qu'il signifie. Mais pour comprendre ça, vous sentez qu'il faut interroger le passé et puis redevenir héritier d'une tradition vivante qui s'enracine dans le passé lointain.
C'est le fait ceci en mémoire de moi.
Faites ceci en mémoire de moi. On va voir de plus en plus ce que c'est que la mémoire, hein, et puis ce qui est au service de la mémoire. Pas le mémorial, pas le nom, et puis à un certain moment apparaît quelque chose qui va devenir très important, le livre. On va peut-être maintenant aller à un autre endroit là, et puis on va commencer cette marche dans le désert vers la Sainte Montagne. Et naïvement, on va suivre les récits dans leur ordre. On va relire les récits qui nous mèneront à la Sainte Montagne, comme ça. Alors on va changer de point de vue pour voir la petite source qui est en bas. Là. On est dans un endroit merveilleux. Vous voyez, sur un rayon de je ne sais pas combien de kilomètres, une vingtaine de kilomètres, il n'y a pas d'autre source. C'est une toute petite source parcimonieuse qu'on appelle Ein, l'œil de la source, vous rappelez ? La source de la Rairo. Oui, on a déjà parlé de ce mot, l'œil de l'eau. Alors, c'est la seule petite source, elle coule goutte à goutte. Et elle sort du rocher là-bas, il y a un peu de verdure qui marque le tracé, on a fait un petit aqueduc et puis on a aménagé un bassin. Et alors, les bouquetins qui habitent dans la région, ils viennent boire là. Alors ici, c'est le premier point où on s'arrête et où on commence la lecture des récits qui mènent à la Sainte Montagne. On va se mettre à l'écoute encore d'une nouvelle manière que Dieu a de parler. Dans l'Épître aux Hébreux, après avoir maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils.